Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Ma mission, vous la connaissez, vous montrer que la France bouge et que vous êtes les acteurs de ce changement. Pendant la Coupe du Monde, on a décidé, nous aussi, de bouger pour venir vous voir dans les villes qui accueillent la compétition. Nous sommes à Reims aujourd'hui, émission spéciale, et ce sont les femmes qui sont à l'honneur, celles qui agissent au quotidien pour faire bouger leur ville et leur région. On vous attend ici à Reims jusqu'à 14h, en direct et en public, à Quartier Libre. C'est ça la France qui bouge.
Europe 1.
C'est la Coupe du Monde féminine de foot et Reims, vous le savez, est une des villes qui accueille les matchs. Ce soir, Jamaïque-Italie se joue à guichet fermé au stade Auguste Delaune. Un réel engouement pour cette Coupe du Monde féminine et c'est pour cette raison qu'on a eu envie, nous aussi, de bouger, de poser nos micros ici à Reims pour rencontrer celles qui font bouger leur ville et leur région. Et vous allez voir qu'il suffit d'ouvrir les yeux pour s'apercevoir que les femmes aujourd'hui agissent au quotidien, qu'elles sont dans les associations, dans les entreprises et qu'elles sont très actives. Pour accueillir nos invités à mes côtés, Benjamin Lévesque est avec moi, il a fait le déplacement, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à toutes.
Et c'est le seul homme de cette émission.
Je me sens un peu seul.
Catherine Testa est là aussi, c'est notre coach aujourd'hui, fondatrice de l'optimisme.com et du club des Chief Happiness Officers. Bonjour Catherine.
Bonjour Raphaël.
Et en studio à Paris, il y a Marlène qui sera là pour nous relayer les messages sur
Absolument,
Twitter,
Raphaël.
Sur Europe 1.
Oui, Twitter avec le hashtag Europe 1 et puis je redonne aussi le standard Europe 1 3921. Vous pouvez aussi nous laisser un petit message bien entendu.
Et vous allez voir hein, qu'on peut être une femme et évoluer dans ce que l'on appelle des métiers d'hommes. Bonjour Marie-Aude Bure.
Bonjour.
Merci d'être avec nous
Merci
sur Europe 1 et ici à Quartier Libre. Vous dirigez Airwork Industries. Alors vous fabriquez, et vous les avez amenés avec vous, des composants hydrauliques et pneumatiques. Mm-hmm. Racontez-moi, vous avez commencé par travailler pour quelqu'un, mais très vite je crois que vous avez eu envie de prendre votre liberté, votre marque propre, avec une idée, ne dépendre de personne, c'est ça?
Exactement. Donc je suis arrivée à Reims en 1986 et j'ai été embauchée par un distributeur de composants techniques. Et en 2004, j'ai décidé de le quitter et donc j'ai créé ma propre société qui s'appelait Transmatic. Et au bout de 4 ans, je suis devenue la start-up de la mécanique, c'est comme ça qu'on m'appelait. Donc c'était assez agréable, mais bon, j'ai été convoitée par pas mal de grands groupes européens, dont un groupe italien qui m'a demandé de le suivre et j'ai refusé.
Alors vous allez vite là, moi je voudrais qu'on revienne au départ. Quand on est Transmatic, vous aviez un petit peu d'argent pour vous financer?
Alors Transmatic, oui, bon, enfin, c'était un peu un coup de tête, j'avais 12 000 euros en poche.
Parce que vous ne connaissiez pas grand-chose hein, à l'époque.
C'est-à-dire que j'avais été directrice commerciale d'une société qui était distributrice de composants techniques.
Oui, mais là il fallait fabriquer.
Et là j'ai fabriqué toute seule, je me suis formée toute seule. Pendant un an j'ai développé ma société, j'arrivais à 150 000 euros la première année, ce qui m'a permis en fait d'embaucher une première personne, de me payer par la suite et puis de racheter des machines, dont des centres d'usinage, etc. Donc j'ai appris le métier toute seule, effectivement.
Sur le tas.
Sur le tas pour, concernant la mécanique. Et puis la partie en fait, gestion, je la connaissais, comptable, je la connaissais, etc. Donc c'est vrai que j'ai travaillé toute seule. Et au bout de, je vous dis, 4 ans, je faisais plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. J'ai embauché une dizaine de personnes en tout. Et un jour, j'ai été appelée par ce grand groupe, qui est le groupe CMO, qui, lui, pareil, a commencé en 90 et aujourd'hui fait 170 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, j'ai créé Airwork Industries toute seule. Et ensuite, on a fusionné les deux.
Mais alors, ce que vous ne dites pas, c'est que c'est eux qui viennent vous chercher et qu'au départ, vous refusez d'être embauché. Vous leur dites non, 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 moi, je ne laisse pas tomber ce que j'ai fabriqué.
Ah non. Non, j'avais des gens très bien. Et d'ailleurs, ils sont toujours là. Et c'était en tout ensemble ou personne. Voilà. Donc, on a attendu 8 ans avant de se mettre d'accord. Ils n'ont pas lâché. Je n'ai pas lâché non plus.
Et puis, donc, ils rachètent votre entreprise.
Ils ont racheté mon entreprise.
Ils l'intègrent.
Et moi, je suis toujours dirigeante de l'entreprise. J'ai remis 40%, enfin, la totalité de ce qu'ils m'avaient donné dans l'entreprise pour la développer. Et l'idée, c'était quand même de créer une structure en France, à Reims de préférence, puisque mon cœur y est. On a aujourd'hui une belle usine de 5000 m2.
À 10 km de Reims, hein, à Sillery.
Exactement, à Sillery, à côté de Cristal Union. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un très, très beau, c'est un beau parcours. Je ne devrais pas le dire, mais c'est un beau parcours pour moi.
Ah bah vous pouvez, vous pouvez être fière.
Mais aujourd'hui, donc, on a du petit vérin que je fabriquais dans mon atelier, aujourd'hui, on a tout un ensemble de composants qui nous permet de travailler sur l'automatisation des chaînes de production.
Ça signifie que les produits que les gens qui nous écoutent hein, peuvent voir sur europe1.fr, les produits que vous avez devant vous
sont fabriqués par le groupe.
Vont à quel endroit exactement ? Ils sont utilisés pour quoi faire exactement ?
Ben, le vérin, déjà, sert à créer un mouvement. Donc un mouvement mécanique, donc il est soit avec de l'air comprimé, soit avec de l'huile, soit avec de l'électricité, des différentes énergies. Donc nous, à Reims, on fabrique le vérin pneumatique, c'est-à-dire air comprimé, et le vérin hydraulique. L'avantage que l'on a, c'est qu'on travaille très vite, c'est-à-dire qu'on étudie en fait toutes les demandes du client chez nous. C'est-à-dire qu'on va faire, en fait, on est bureau d'études, on travaille, on fait des systèmes 3D, etc. Et puis, à côté de ça, dans le groupe, nous avons des sociétés qui fabriquent tous les composants attenant, en fait, au vérin pneumatique ou hydraulique, et ce qui nous permet d'avoir une gamme complète. Et on ne rougit pas du tout devant les grands de ce monde, puisque aujourd'hui, on a quand même un pignon sur eux.
Oui, vous arrivez à jouer dans la cour d'écran aujourd'hui. Oui. Catherine, notre coach.
Alors, vous le disiez, vous avez tenu bon face à ce grand groupe. Est-ce que c'est parce que vous étiez une femme que vous souhaitiez tenir bon pour maintenir
À compétence égale entre un homme et une femme, non. J'ai pas... Mais moi, je suis quelqu'un qui lâche rien. C'est-à-dire que comme je me suis fait toute seule, il est hors de question qu'on vienne me titiller et m'ennuyer un petit peu comme ça. Donc, c'est vrai que les Italiens ont eu du mal à me suivre. Comprenez pas non plus pourquoi moi, femme, je puisse être dans la mécanique. Ça, c'était un truc qui
ne leur venait pas. Oui, ça a été compliqué
ça a été un
de s'imposer.
Oui, bien sûr, ça a été compliqué. Mais bon, j'ai su les mettre au pas, je dirais.
Alors justement, des femmes qui mettent au pas, des femmes chefs d'entreprise, je crois que vous en avez trouvé beaucoup ici, Benjamin. Vous avez identifié certaines structures où quand même elles se retrouvent.
Avec par exemple d'abord le réseau Créé au féminin, alors qui regroupe 300 femmes, toutes entrepreneuses à Reims, dans plein de secteurs différents, hein, comme la santé, on a aussi de l'immobilier, le BTP ou encore la décoration. L'objectif, eh bien, c'est vraiment de se réunir lors d'événements, de créer du lien, de créer un réseau et se motiver. Et puis dans le même modèle, il existe les Inspirantes, c'est un réseau de partage, c'est en fait des soirées qui sont organisée, alors ouverte à toutes les femmes, ou une invitée.
Oui, dont certaines représentantes sont avec nous ici à Reims, dans
le public. Exactement. Où une invitée eh bien, vient partager son parcours, à la fois personnel, mais aussi professionnel. Et le but, c'est bien sûr de s'encourager mutuellement à se lancer dans ce type de projet.
Si je dis ça, c'est que évidemment Marie-Haute Bure, au féminin, il y a énormément de choses qui se développent hein, pour justement.
Mais disons, créé au féminin, c'est moi qui l'ai créé avec la Chambre de commerce il y a maintenant 8 ans. Et c'est vrai que pour nous, c'était intéressant. Pourquoi ? Parce que énormément de femmes, voire même d'hommes, ont du mal en fait à créer leur société, à trouver des réseaux, à trouver un banquier, à se rassurer.
Ça veut dire qu'il faut serrer les coudes.
Les femmes, en fait, entre elles, sont hyper bienveillantes. Moi, j'adore. J'adore être avec des femmes dans l'esprit d'entreprendre. En même temps, c'est vrai que j'ai un peu d'expérience. Donc, je l'ai fait. Donc, j'ai même créé du marrainage. C'est-à-dire que j'ai aidé des jeunes femmes à développer leur société. Et c'est vrai que pour nous, pour moi, enfin, j'adore parce que je me suis dit, ça donne en fait envie de sauter le pas. Et voilà, c'était une bonne expérience.
On reste ensemble et on va continuer à voir ce que font les femmes ici dans la région rémoise.
Il est 13h09. Europe 1, Raphaël Duchemin.
Qui dit Reims dit Champagne et vous allez voir que son histoire s'écrit aussi encore aujourd'hui avec des femmes. Elles sont regroupées au sein d'une association qui s'appelle Les Fabuleuses. À tout de suite.
Une région à l'honneur dans la France bouge. On vous retrouve Raphaël Duchemin en direct de Reims jusqu'à 14h. On s'intéresse aux femmes chefs d'entreprise qui font bouger la ville de Reims et sa région. Pour nous laisser un message, n'oubliez pas 39,21 50 centimes d'euros la minute et puis Twitter avec le hashtag Europe 1.
Et vous savez sans doute, Marlène, que bon nombre d'illustres maisons de champagne ont eu à leur tête à un moment donné des femmes qui en ont fait la renommée. Et aujourd'hui encore, eh bien, elles sont là, ces femmes, à la manœuvre. Bonjour Sophie Moussier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes la présidente de l'association Les Fabuleuses, on entend hein, les bulles effectivement dans votre appellation, Les Fabuleuses de Champagne évidemment. Moi, je connaissais les trois drôles de dames, les cinq fantastiques. Aujourd'hui, il y a les sept fabuleuses à Reims.
C'est ça, les sept fabuleuses de Champagne. On est la première association de femmes viticultrices vigneronnes en Champagne. Bien évidemment, il y a plein de vigneronnes qui sont peut-être encore de l'ombre. Au contraire, voilà, avec cette association, on a voulu lancer un élan pour voilà, oser assumer le fait qu'on est des femmes vigneronnes.
Pourquoi faire ? Pour montrer qu'une femme à la tête d'une maison de champagne, c'est possible et que même si le nom sur l'étiquette est masculin, on n'est pas obligé d'avoir un homme pour la diriger ?
Il y a toujours eu beaucoup de femmes dans les grandes maisons. Elles ont toujours été présentes pendant les guerres. C'est les femmes qui ont mené les entreprises, qui ont fait le travail des
veuves vignes. Notamment.
Exactement. Aujourd'hui, on est un siècle où on veut communiquer, on veut mettre en avant notre savoir-faire, notre artisanat. Et avec les filles, avec les fabuleuses, on...
Alors, elles sont là.
Hein. Oui,
on a Hélène
là.
Beaugrand, Charlotte de Souza, Delphine Brûlé, Laurine Bayette, Mathilde Devarenne et Claire Bain qui sont dans le public ici à Quartier Libre à Reims avec vous.
Oui, oui, mais on est une équipe. On entendait tout à l'heure que vraiment, entre nous, on s'entraide. C'était vraiment le but principal au début de l'association. C'était vraiment l'entraide, l'échange, comment on avance ensemble. On est toutes jeunes. Donc voilà, avec la vie de femme, vigneronne, un travail qui est physique, la conjugaison aussi de la maternité avec notre métier, parce que ça fait partie de notre vie. Notre entreprise fait partie de notre vie.
Vous en êtes l'exemple de ces femmes au travail. C'est champagneuse, c'est ça ? Je crois que vous avez toujours voulu, ouais. Vous, depuis que vous êtes toute petite, être champagneuse. Et vous êtes à la tête d'une maison qui porte un nom masculin, Guiméa.
Exactement. Depuis que je suis toute petite, je veux être champagneuse. Il y a encore des clients aujourd'hui... qui sont plus âgés, mais qui me disent c'est la champagneuse. Voilà, je suis la champagneuse de la maison Méa et la cinquième génération.
Et vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, en étant ensemble, regroupés, vous êtes plus forte. Je crois que vous avez d'ailleurs essayé de montrer hein, dans ce que vous offrez aux clients cet esprit d'équipe parce que vous avez créé ensemble des coffrets.
Exactement. La première année où on a créé l'association, on est parti sur un coffret bois avec nos 7 bouteilles commercialisées ensemble. Parce que oui, faire les choses ensemble et commercialiser ensemble, ça fonctionne. Aujourd'hui, on est 7 viticultrices différentes, 7 terroirs. On draine la Champagne sur nos 7 exploitations. On a 7 caractères différents. Voilà,
il n'y a pas que la concurrence.
Pas du tout.
Il y a l'entraide.
Ça fonctionne hyper bien avec les filles. On commercialise ensemble. On a chacune nos clients existants, etc. Mais aujourd'hui, quand on bouge ensemble sur les salons, on n'est pas en concurrence. On a 7 champagnes qui sont à notre image.
Dans leurs caractéristiques
propres.
Vous avez fait un coffret, une box. Aujourd'hui, vous êtes venu avec... qu'est-ce que c'est ? Racontez-moi.
C'est un fabuleux
site. Avec nous.
Fabuleux site.
Sur Europe 1.fr.
Oui.
Un fabuleux site.
Fabuleux site. L'idée, c'était vraiment de créer un packaging, un tabouret.
Qui s'ouvre,
réutilisable. Donc aujourd'hui, il y a 7 bouteilles, nos 7 cuvées, sélectionnées par chacune d'entre nous, 7 cuvées. L'idée, c'est de pouvoir réutiliser ce tabouret. Donc il est hermétique, on peut mettre des magnums pour faire un pique-nique, voilà, par exemple. On peut mettre les jouets des enfants qui traînent partout dans le salon et recouvert d'un petit coussin fait Made in France. Voilà, pour pouvoir être réutilisable.
La coach, Catherine.
Alors, on voit que vous avez beaucoup féminisé finalement le packaging. Aujourd'hui, qui achète du champagne en fait ? Est-ce que c'est plutôt des hommes ? Est-ce que c'est plutôt des femmes ? Est-ce que du coup, il y a de plus en plus d'achats faits par des femmes ?
En règle générale, c'est assez général, mais c'est souvent dans les achats, la décision finale est souvent la femme. Donc, à un moment donné. Après, nous, on vend pas un genre. On est une association de femmes, de vigneronnes. On ne s'adresse pas uniquement aux femmes acheteuses et consommatrices de champagne. Le champagne, ça se partage.
Génial.
Et le champagne, c'est vraiment le poumon, on peut dire, économique de Reims aujourd'hui, Benjamin ?
Oui, il faut imaginer que c'est presque 5 milliards d'euros de recettes pour la France chaque année. 300 millions de bouteilles quand même exportées à travers la planète. Alors principalement chez nos voisins au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis, et puis au Japon et en Suisse. Et puis, bien, ça crée de l'emploi effectivement dans la région, hein, puisque le champagne crée 30 000 emplois directs et 120 000 vendangeurs.
Sophie Moussier, vous avez vu la différence depuis que vous vous êtes alliée, justement ? On vous regarde autrement ? On vous considère autrement ?
Je pense déjà qu'individuellement, ça nous a fait tout vraiment du bien. Ça a été, on a toutes repris des entreprises, c'est pas évident. On est plus forte. Donc quand on est plus forte, on a plus confiance en soi. Et quand on a plus confiance en soi, forcément, ça se ressent parce que on sait.
Ça change rien sur votre manière de faire dans vos vignobles chacune, mais ça vous donne peut-être des tuyaux pour essayer d'aller plus loin quand il y en a une qui est bloquée sur un problème particulier.
Mais complètement. Quand je vous parlais d'entraide au début, vraiment, parfois, on a des lacunes, que ce soit sur la partie vinification, vignoble. On est au début, donc même si on a nos pères, entre guillemets, qui nous encadrent, on s'appelle beaucoup régulièrement pour se donner des conseils. Il y en a qui ont plus de facilité sur tel type de vinification, qui sont plus doués dans tel type de paperasse. Donc oui, bien sûr, au quotidien.
Et ça ne sera pas un problème si ce sont des garçons qui reprennent après vous?
Moi, j'ai deux garçons, donc s'ils veulent reprendre, ils reprendront. Après, il faut qu'ils fassent leurs preuves.
On reste ensemble, on est ici à Reims, à Quartier Libre, pour mettre les femmes à l'honneur aujourd'hui.
Il est 13h18. Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et on va changer d'univers, vous allez découvrir le linge de lit jetable. C'est ici, à Reims, que l'idée est née. À tout de suite.
Vous écoutez La France bouge. Aujourd'hui, elle pétille avec vous, Raphaël Duchemin et vos invités. Vous êtes à Reims jusqu'à 14h et vous êtes entourée de femmes inspirantes. Les femmes chefs d'entreprise sont à l'honneur. N'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à réagir, à commenter ou à poser vos questions. Là, je m'adresse aux auditeurs. Twitter avec le hashtag Europe 1 ou encore en composant le 3921. C'est le standard Europe 1. 50 centimes d'euros la minute, on vous attend.
Et puis, on a des micros ici, Marlène, qui vont circuler tout à l'heure le public a des questions à nous poser, évidemment. Est-ce que vous connaissiez le linge de lit jetable, Marlène?
Absolument pas.
Eh bien, c'est ici, figurez-vous, qu'il a vu le jour, à Reims. Bonjour Sylvie Coupchou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous avez créé le kit linge de France, linge France.
Kit linge France.
Hein, c'est en 2015 que tout a démarré. Mmh. Racontez-moi comment une infirmière de bloc opératoire, puisque c'était votre métier, décide de se lancer dans cette aventure. Vous étiez déjà très sensible, je suppose, à tout ce qui était hygiène.
Le point commun, c'est l'hygiène, ouais. Voilà, tout simplement. Parce que on s'est mis dans une agence de location saisonnière.
Quand vous dites « on », c'est avec votre mari qui est juste derrière vous, hein, qui est ici dans le public.
Voilà,
qui vous
pour monter une conciergerie, parce qu'on aime bien tout ce qui est location. Et puis, on s'est aperçu en travaillant dans ce milieu que le linge était vraiment un véritable problème. Donc, on s'est dit, plutôt que de s'occuper d'une conciergerie complètement, il faut s'occuper simplement du linge.
Donc, vous avez essayé d'optimiser et vous vous rendez compte que finalement, il n'y a pas de linge jetable.
On se tourne vers le linge, on regarde, on se dit, bon, on va regarder ce qu'il existe comme machine pour vraiment traiter le linge correctement.
Oui.
Et puis, je tombe sur une publicité de linge de lit jetable. Et je me dis, mais tiens, je ne connais pas ça. Donc, on a testé le linge de lit jetable. Et je me suis dit, c'est juste dédié à la location saisonnière et à tout ce qui est location touristique. Et donc, le linge de lit jetable était fait pour les campings, vraiment pour tout ce qui est matelas standard. Et donc, nous, on a décidé de le faire au niveau des conciergeries, au niveau des professionnels et des particuliers. Et de traiter tout ce qui est toutes les dimensions du lit, en fait, hein, la longueur, la largeur, la hauteur, parce que on retrouve.
Mais comment vous avez fait pour le concevoir? Vous êtes inspiré de ce que vous aviez vu, parce que il est avec nous là, sur Europe 1, ici à Reims.
Alors, si déjà,
vous suivez sur europe1.fr. Il est jetable, il est biodégradable.
Il est biodégradable.
Il y en a en bambou. C'est ça.
Il est en bambou, en fibre de bambou ou en fibre d'eucalyptus. Et donc, le linge de lit jetable pour les campings, il fallait vraiment sortir de ce milieu.
Restez bien près de votre micro parce que sinon, on ne va plus vous entendre.
Et vraiment relever la qualité parce qu'au niveau des particuliers, au niveau des propriétaires et au niveau des professionnels du tourisme, il fallait vraiment proposer un produit beaucoup plus haut de gamme. Et donc, on a créé un linge de toilette en fibre de bambou. Qui est aussi absorbant qu'une serviette éponge et qui, au niveau hygiène, est vraiment plus adapté.
Donc, vous avez développé la gamme petit à petit. Vous ne vous êtes pas contenté du linge de lit.
Non,
vous avez aussi investi la salle de bain.
Tout à fait.
Vous avez fait comment pour trouver les produits, pour trouver ceux qui allaient les fabriquer? Parce que ici, en France, vous avez cherché, c'était trop cher.
On n'a pas en France.
Enfin, vous avez commencé par la Chine.
On a commencé à regarder en France. Et puis après, on a regardé les personnes qui connaissaient bien la Chine. Et on a demandé de nous trouver des fabricants en Chine pour pouvoir développer le produit. Donc, on en a trouvé un. Et après, on a trouvé en Italie
Donc là, maintenant, c'est fabriqué en Italie. Donc, vous êtes revenu en Europe. Voilà. L'idée, ce serait un jour, de pouvoir faire du Made in France. Donc, on lance un appel hein, aujourd'hui.
Tout à fait.
Si quelqu'un nous écoute et veut vous aider à fabriquer en France, on sera ravis de...
En France, mais là, on n'a pas. On n'avait pas.
Pour l'instant, on n'a pas.
Pour le moment, nous, on n'a pas.
Qu'est-ce que vous en dites, Catherine ?
Alors là, vous parlez de biodégradabilité, mais est-ce que demain, ça visait à être recyclé, peut-être, ce genre de matériaux qu'on jette, finalement, après quelques utilisations ?
Alors, le recyclable, ça concerne vraiment tout ce qui est à base de pétrole, hein, oui. Évidemment. Donc, il existe actuellement. Il est recyclable, il est entièrement recyclable, mais on n'a pas la filière pour la collecte.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pourriez, mais vous n'arrivez pas à le faire parce que derrière, vous n'avez pas le...
Voilà, on n'a pas la collecte, en fait. Hein.
Et... Deuxième appel lancé.
Deuxième appel lancé, oui, je vous confirme. Voilà.
Et il faut un certain volume. Le linge de lit jetable n'est pas connu. Donc, effectivement, il faut quand même un certain volume pour que les personnes qui doivent recycler puissent traiter le linge. Et justement, dans les grandes villes où il y a un grand turnover de location, justement, on pourrait commencer à mettre en place ce système. Vraiment.
Vous travaillez avec l'ADEME, hein, je crois, justement, pour essayer de faire avancer les choses sur ce sujet. Voilà, vous en êtes où ? Que vous dit l'ADEME ?
Il faut du temps, parce qu'il faut des collectes, il faut des points de collecte. Ça ne vient pas en un jour, mais bon, tout dossier se travaille et on évolue.
Benjamin, justement, on est dans une région touristique ici à Reims.
Oui, on en accueille même 7 millions chaque année. Alors principalement des Français, je vais être très franc, puis dans l'ordre des Britanniques, des Belges et des Allemands. Alors parmi les sites phares, il y a bien sûr la cathédrale de Reims. Vous avez aussi le parc de loisirs Nigloland. Il y a le festival du Cabaret Vert. Ainsi que le mémorial Charles de Gaulle, sans parler de l'œnotourisme pour la gastronomie et le champagne et la visite bien sûr des caves et des vignobles. Il y a quand même 16 000 vignerons ici.
On reste ensemble ici à Reims, à Quartier Libre, où on est ravis d'être accueillis aujourd'hui sur Europe 1 et on vous attend bien sûr.
Il est 13h27. Europe 1, Raphaël Duchemin.
39-21, vos questions au téléphone et sur Twitter, hashtag Europe 1. Et ici, aussi dans le public, les micros vont circuler. C'est la France qui bouge avec vous. On vous attend.
Là où se trouve Raphaël Duchemin, il y a du champagne très certainement, puisque vous êtes à Reims, Raphaël. C'est la France bouge jusqu'à 14h.
Avec modération, Marlène.
Avec modération, mais bien sûr, vous êtes en direct et en public, précisons-le. On a eu quelques messages sur Twitter.
Vous allez nous les donner dans quelques instants.
Dans quelques instants, voilà. Je voulais juste vous prévenir avec le hashtag Europe 1.
Alors, nous sommes avec Marie Audebure, qui dirige Airwork Industries, avec Sophie Moussier, qui est la présidente de l'association Les Fabuleuses de Champagne, et aussi avec Sylvie Coupchou, fondatrice et dirigeante de Kit Linge France. À mes côtés, Benjamin Lévesque, le seul homme de l'émission, et Catherine Testa, qui est notre coach aujourd'hui. Et effectivement, Marlène, nous avons quelques messages sur Twitter, notamment avec le hashtag Europe 1.
Oui, Marc, par exemple, qui nous a posé une question, surtout aux femmes chefs d'entreprise qui sont présentes. Il demande, avez-vous un modèle qui vous a inspiré ?
Ah, est-ce que l'une d'entre vous a un modèle féminin, évidemment, qui l'a inspiré Ça réfléchit. Je vais vous laisser le temps de réfléchir. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une question dans la salle. Bonjour.
Bonjour. La question est pour l'une de vous trois, et les trois même. Moi, c'est la question, peut-être en regardant votre parcours, finalement, qu'est-ce qui vous a le plus manqué ? Ou si on prend la question en creux, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui a envie d'entreprendre, à une femme qui a envie d'entreprendre ?
Ah, qui a envie de répondre ? Marie-Aude ?
Oui, alors ce qui m'a manqué, c'est l'argent. Puisque j'ai commencé avec pas grand-chose, 12 000 euros au départ.
Et dans des locaux qui étaient à votre mari. Hein,
voilà, c'était des locaux, mais je payais mon loyer quand même. Oui. Hein, j'ai rénové après. Voilà, c'est ce qui m'a manqué, c'est ça. Après, c'est ce qui m'a en fait aussi dirigée vers un groupe pour justement pérenniser l'entreprise et avoir une visibilité que je ne pouvais pas avoir toute seule. Donc, si j'avais eu cet argent, c'est-à-dire, eh bien, je n'aurais pas forcément partagé. C'est-à-dire que bah, je serais toute seule et j'aurais été très contente aussi. Mais voilà. Donc après, ce qui motive, c'est justement le partage. C'est la recherche de nouveaux produits, d'être toujours le meilleur. Et puis surtout que les industriels nous fassent confiance. Parce que qu'est-ce que fait un industriel aujourd'hui quand il automatise ? Eh bien, il va voir celui qui est le plus connu dans le monde, alors que nous, on va apporter des solutions que les autres ne connaissent pas. Quoi.
Qu'est-ce qui vous a manqué, Sylvie, Sophie ?
Moi, je crois que quand on a une idée, il faut vraiment aller jusqu'au bout de son idée, croire en son produit, le réfléchir et puis aller vraiment jusqu'au bout.
Vous avez eu le sentiment de manquer de soutien ? Vous étiez engagée dans ce projet avec votre mari ?
J'étais toute seule. J'ai vraiment été persuadée que c'était quelque chose de vraiment intéressant et d'indispensable surtout.
Sophie, voilà. Même question pour vous.
Je pense qu'il faut bien s'entourer. De toute façon, c'est la base de la vie en règle générale, bien s'entourer. Voilà, quand on a des projets et qu'on y croit, on s'entoure de personnes bienveillantes et on avance.
Vous parliez d'argent, les unes comme les autres, ça vous a manqué au départ de l'aventure. Vous l'avez dit, hein, Marie-Aude, aujourd'hui, quand on voit les résultats que fait Air Work Industry, forcément, on dit chapeau parce que vous avez franchi vraiment un pas de géant. Qu'est-ce que vous diriez justement sur cette question du financement aux femmes qui veulent se lancer, qui sont dans des start-up aujourd'hui ou qui hésitent ?
C'est déjà
d'aller bien. Chercher, d'aller
oui, taper aux portes pour demander les financements. Il faut aller chercher les financements. Il y a la BPI, il y a les chambres de commerce qui nous aident aussi à trouver des solutions parce que eux réunissent en fait un certain nombre de personnes qui peuvent financières, je veux dire, qui peuvent nous aider. Mais après, les approches collaboratives, moi, j'en ai fait une. C'était assez compliqué parce que j'avais déposé un brevet. Il fallait 300 000 euros derrière pour pouvoir faire l'investissement. Et ça ne s'est pas fait parce que j'ai pas réussi à avoir cet argent-là. Mais je ne regrette rien, hein, attention. Hein,
On entend bien dans votre voix.
L'idée, c'était quand même, effectivement, de s'associer avec des grands et de leur dire, on reste ici, on fabrique en France et on garde notre identité.
Catherine, la coach.
Alors, les réseaux féminins sont très, très forts de solidarité parce que quand on se lance aussi, quand on est une femme, souvent, il y a tout un tas d'injonctions qui nous viennent dessus, mais il ne faudrait pas d'abord faire grandir tes enfants, etc., etc. Et finalement, seule une autre femme entrepreneur va pouvoir comprendre et être un acteur d'échange, en fait. Enfin, j'imagine que c'est ce que vous vivez aussi chez les Fabuleuses,
oui.
Par exemple.
Complètement. Sophie. Complètement. Nous, quand on se retrouve avec les filles... très régulièrement, quand nos emplois du temps le permettent. Nos sujets de discussion, c'est comment tu organises ta vie. Je parlais tout à l'heure de maternité, mais on est en plein cœur, on est tout autour de la trentaine. À nous sept, on a toutes fait 6 enfants en 4 ans. Donc on n'a pas les entrepreneurs, on n'a pas de congés, etc. Donc on s'adapte et on adapte notre vie à notre travail.
Sylvie, je voudrais vous redonner la parole pour qu'on comprenne bien l'intérêt du linge de lit jetable parce qu'on a quelques messages pour nous dire à quoi ça sert. C'est utile parce que quand on a du linge de lit jetable, surtout quand on est dans un hôtel ou quand on fait des locations en Airbnb, c'est de l'eau en moins. C'est
absolument.
Des lessives en moins,
c'est des, on pollue moins la planète. C'est surtout des produits lessiviels en moins, parce qu'il faut savoir qu'en France, on fait 20 millions de lessives par jour. Donc ça fait quand même au niveau du traitement de l'eau. Alors dans les villes qui augmentent de 10 leur population pendant l'été ou en hiver, c'est tout simplement un véritable problème. Voilà. Donc, et puis la gestion du linge vous facilite vraiment.
Voilà, j'espère qu'on a répondu à la question que se posaient certains de nos auditeurs qui nous ont envoyé des petits messages. Merci à toutes les trois d'avoir été avec nous. Vous restez évidemment et on va nous continuer cette émission avec des femmes ici à Reims sur Europe 1.
Il est 13h36. Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et la Madeleine de Proust ici à Reims, c'est un biscuit rose, c'est Fossier et c'est l'entreprise qui va bien. Merci, à tout de suite.
Europe 1.
Vous écoutez La France bouge en direct de Reims et en public. Raphaël Duchemin, il est 13h40. C'est l'heure de braquer vos projecteurs sur une entreprise qui va bien.
Et cette entreprise, figurez-vous qu'elle date de 1756, c'est Fossier, les biscuits Fossier. Bonjour Anne de Fougeroux.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes la présidente des biscuits Fossier. Je crois que c'est en 1845 que Monsieur Fossier reprend l'entreprise. Et c'est lui qui va en fait donner naissance à ce fameux biscuit rose qu'on connaît. Il les oublie, ces biscuits, dans le four.
Non, ce n'est pas Monsieur Fossier. C'est bien avant.
Oui, parce que
boulanger.
C'est 1756.
Oui, un boulanger.
Et c'est lui qui donne le nom.
Fossier, oui, parce qu'il avait repris l'affaire, qu'il a passé, qu'il a donné à sa fille Marie-Clémentine, dont vous avez le portrait là,
qui est là,
qui a bien développé l'affaire et qui, par la suite, ça a perduré. Nous sommes à l'heure actuelle la dernière fabrique industrielle de biscuits roses.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment on obtient ce biscuit? C'est effectivement, au départ, une erreur de cuisson.
Exactement, une erreur de cuisson. Donc, ces biscuits sont faits cuits deux fois, d'où le mot biscuit. Et pour ceci, et après, quand vous les trempez dans le champagne ou dans un liquide, ils ne s'écroulent pas. Et on peut faire des desserts, on peut
les utiliser pour plein de choses en cuisine. Oui. Ce qui s'est passé au départ, c'est que ce biscuit, en fait, ça devait être un biscuit normal.
Voilà, et c'est un oubli.
Comme il a été oublié, il a fallu mettre de la couleur.
Non, parce qu'il était, il
pour avait masquer, été... pour masquer les petits points de vanille. Hein,
les vanilles, voilà. Donc, ils ont mis de la couleur et maintenant, c'est un colorant naturel, carmin.
Oui, à l'époque, ça n'était pas le cas, mais c'est ça qui a donné la fameuse
couleur rose
particularité
et
rose.
Voilà, et c'est traditionnel. C'est pour ça que nous l'avons gardé.
C'est devenu traditionnel, effectivement. Ce biscuit rose, dites-moi, il a été copié beaucoup. Il y en a eu énormément.
Non, c'est resté Rémois.
C'est resté Rémois.
C'est resté Rémois, très, très traditionnel d'ici, et on y tient.
Aujourd'hui, il n'y a plus que vous qui fabriquez des biscuits Rémois, des biscuits roses?
De cette façon, oui. Biscuits, oui. Autrement,
biscuits. Vous insistez bien sur le mot biscuit.
Oui, parce que c'est cuit deux fois.
C'est avec votre mari, je crois, que vous avez racheté l'entreprise.
Voilà, c'est mon mari qui a
1996, hein.
Oui, 96. Avant, il avait repris la biscuiterie rémoise à Monsieur Guittard.
Oui, il était biscuitier lui-même.
Ah, toujours, c'était un passionné. Il n'a toujours vécu.
Il avait travaillé chez lui, notamment.
Oui, voilà, il était un biscuitier et un amoureux des biscuits, un amoureux du savoir-faire. Et c'était surtout un travailleur acharné qui a porté ce produit phare là où il est maintenant.
Ce produit, il est toujours fait dans les mêmes conditions,
oui.
Toujours de la même manière, toujours oui. De façon artisanale. Vous faites travailler combien de personnes aujourd'hui chez Fossier?
Oh, une centaine, plus des intérims au moment des pics.
Des
de
pics,
pointe.
C'est-à-dire quand les touristes surtout, arrivent notamment.
Surtout, maman, pour nous, le grand maman, c'est Noël. Et puis Pâques, évidemment, enfin les fêtes, surtout, mais surtout Noël.
Ouais, c'est un savoir-faire, ça se transmet de génération en génération, faire un biscuit?
Oui, si vous voulez, dans un certain sens, parce que quand on est amoureux de ce qu'on fait, il faut avoir une passion dans la vie. C'est ce que disait toujours mon mari, c'était sa passion et c'est pour ça qu'il est arrivé là où on en est.
Vous avez le label Entreprise du patrimoine vivant, c'est important.
Oui, parce un très que beau label d'ailleurs.
C'est une histoire, c'est une histoire, un savoir-faire.
Créé par Renaud Dutreil, oui, c'est un savoir-faire au fond. Il y a beaucoup d'entreprises maintenant en France qui l'ont. Et on a mis en honneur le travail français. Et c'est quand même très important.
Vous achetez tous les produits dans la région pour fabriquer
en grande partie.
Pour les matières premières. Vous essayez de faire local.
Bien sûr, mais on essaye tous ici de faire local.
Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, le Made in France, c'est un plus pour vendre un produit?
Certainement. Mais certainement. On a quand même un très beau savoir-faire. Et vous savez, on travaille quand même avec nos chefs étoilés dans la région. Il y en a quand même un certain nombre qui proposent toujours des desserts aux biscuits roses. On essaye tous de faire connaître nos produits. Vous voyez, nous avons fait un circuit de visite avec quelqu'un qui explique toute la fabrication. C'est une galerie avec des verres. Donc, vous surplombez complètement toutes les chaînes d'entreprise et vous voyez le biscuit depuis la farine jusqu'à son ensachage.
Avec une recette top secrète ou pas?
Oui, secrète bien entendu.
Un petit peu quand même. Que dit notre coach?
Quand on visite le site web, vous indiquez les valeurs de l'entreprise, de la maison Fossier. Est-ce que vos salariés finalement ont un sentiment de fierté de travailler chez vous aujourd'hui? Parce que j'imagine que quand on ouvre aussi son entreprise à la transparence, il faut que les salariés soient engagés.
Ils ont toujours été au cœur de notre esprit. Voyez-vous, pour nous, c'est très important. Et on a fait des chartes avec eux. Et oui, ils sont fiers, du moins, je l'espère. Et je ferai tout pour.
Vous employez une centaine de personnes. Vous l'avez dit, vous faites un chiffre d'affaires de 12 millions,
oui,
c'est ça?
Oui.
C'est quelque chose qui est appelé à se développer encore?
Bien sûr, il faut toujours être innovant et toujours aller de l'avant.
La suite, c'est quoi pour Fossier, alors?
La suite, ben, j'espère mes enfants.
Vos enfants qui sont déjà avec vous dans l'entreprise.
Il y en a avec nous, oui.
Et qui vont continuer à faire vivre le nom de Fossier.
Mais oui, ça restera Fossier. Ce n'est pas question que ça change de nom.
C'est Fossier, c'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h46.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Elle vous livre des paniers repas à base de produits locaux, elle aussi. Popiette est la solution si vous voulez manger bien et local. À tout de suite.
Jusqu'à 14h, la France bouge sur Europe 1, émission en public qui touche à sa fin avec vous, Raphaël Duchemin, en direct de Reims et avec une solution pour manger bien et local.
Benjamin, vous avez effectivement trouvé un moyen pour manger sainement et avec des produits qui sont du coin. D'ici, de Reims.
Oui, j'ai découvert les Popiettes. Alors, c'est un site internet qui permet de se faire livrer à domicile des paniers de repas. C'est tout nouveau hein, puisque le service existe depuis le mois de septembre. Bonjour Doriane Lefebvre.
Bonjour.
Alors, cette idée, c'est quoi? C'est celle d'une maman active qui n'a pas forcément le temps le soir de bien cuisiner pour ses enfants?
C'est ça, c'est l'idée d'une maman qui voulait bien faire manger ses enfants, mais en travaillant, quand on ouvre le frigo, les recettes étaient souvent les mêmes, hein, soupe, quiche, salade, j'en avais un peu marre. Et je voulais aussi bien manger des bons produits. C'est vrai qu'on a la chance d'être dans une région où il y a plein de producteurs, mais comme en France, on est dans chaque région, il y a des tonnes de producteurs. Mais quand on travaille, on n'a pas forcément le temps d'aller à leur rencontre sur les marchés, d'aller directement chez eux. Donc je me suis dit qu'il fallait un concept qui ramène tout ça en un, des idées de recettes, mais en même temps élaborées avec des produits locaux. Donc c'est comme ça qu'est née les Popiettes, sont nées les Popiettes. Donc aujourd'hui, on livre des paniers recettes 4 jours après la livraison, la commande et 90% des produits sont locaux.
Et vous travaillez, je crois, avec une diététicienne?
C'est ça, à l'élaboration des recettes.
Et vous êtes la seule à cuisiner? Enfin, vous êtes à temps plein, vous avez démissionné, je pense?
Ouais, un coup de tête, j'ai rupture conventionnelle, quoi. J'ai assuré mes arrières, mais voilà. Je me suis dit, je bascule à 180 et je crée les Popiettes. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis seule, mais ça marche.
Il y a également un effort éco-responsable sur les emballages.
C'est ça. En fait, à la base, quand j'ai créé les Popiettes, je ne voulais pas qu'il y ait de système d'abonnement. Je n'aime pas se sentir prise au piège. Donc, j'ai fait le pari que les clients reviendraient. Et en fait, ils reviennent tous à 95%.
Alors, combien de clients, d'ailleurs?
Alors, on a une centaine de clients. Enfin, j'ai une centaine de clients.
Depuis le mois de septembre.
Oui, c'est ça. Après, voilà, quand vous dites Reims, ça sera en septembre. Aujourd'hui, c'est voilà, ma région. J'ai trouvé mon mari à Vitry-le-François, donc c'est à une heure d'ici.
Pas très loin.
Petite bourgade. Et j'ai développé Chalon, donc c'est une centaine de clients sur ces secteurs-là. Et dès septembre, nous arrivons à Reims et Troyes parce que les produits locaux ne nous permettent pas d'exporter à plus de 80 km. Donc, j'ai fait le pari que les clients reviendraient et c'est ce qui se passe. Donc, en fait, les produits sont compartimentés en bocaux. Les cartons, il y a des sacs isothermes, il y a des blocs froids et les gens à chaque livraison me redonnent les cartons qu'on recycle, qu'on réutilise s'ils sont en bon état.
Et là, vous avez par exemple un filet mignon au navet nouveau, un saumon papillote épuré aux trois légumes avec à chaque fois des petites astuces.
C'est ça.
Que dit notre coach de ces petites recettes? Je vais regarder d'un peu plus près quand même.
Que au moins, ça ne déresponsabilise pas complètement. En un clic, on ne reçoit pas quelque chose immédiatement. Donc, il y a le plaisir de cuisiner qui est toujours là. Qui sont vos clients aujourd'hui? C'est plutôt du coup des mamans encore ou il y a commencé à des papas?
J'ai pas mal de personnes célibataires.
OK.
Parce que finalement, c'est un concept qui s'adonne, qui permet aussi aux personnes célibataires d'avoir la viande proportionnée. Il n'y a pas beaucoup de concepts qui répondent à ces personnes célibataires. Forcément, les familles actives, donc en général, 2-4 personnes, enfin, les couples actifs, les familles. Et j'ai aussi un peu de personnes dépendantes parce que voilà, en campagne, il y a encore beaucoup de personnes vaillantes mais qui ne peuvent plus se déplacer.
Donc, pour aller faire les courses, hein, notamment.
Ouais, voilà. Et c'est vrai qu'en zone rurale, c'est compliqué. Donc voilà, j'ai aussi des personnes qui... Voilà. Après, je voulais aussi que ça soit un concept qui soit financièrement accessible à tout le monde. Et aujourd'hui, c'est ce qui, voilà, c'est un concept.
C'est-à-dire, vous vendez combien?
Alors, ça, le panier repas. La recette va de 4 euros à 7 euros livrée chez soi. Et donc, en fait, voilà, j'ai tout type de personnes.
Et est-ce que les entreprises, par exemple, peuvent faire appel à vous pour proposer ça à leurs salariés?
Alors, c'est eux. Alors, je commence à développer ça, mais ce n'est pas forcément encore le nerf de la guerre pour moi. Mais oui, j'y viendrai peut-être.
Donc, avec des embauches, hein, oui, des embauches derrière pour
étoffer
l'équipe.
Des femmes, je pense. Mais...
Si, par exemple, j'ai des intolérances ou des allergies, je peux vous le signaler? Comment est-ce que je fais?
Par exemple, j'ai des gens qui sont, voilà, qui ne peuvent pas manger de sel. Alors, l'intérêt aussi des paupiettes, c'est que par exemple, lorsqu'il y a du pain, des pains hamburgers, etc., tout est fait par mon boulanger. Donc, il suffit que je lui précise et voilà, il est fait comme il, comme, enfin voilà, selon les exigences des clients. Après, pareil, dans les personnes âgées, ce qui est bien, c'est qu'il y en a, ils ne doivent pas trop saler, trop sucré. L'idée, c'est que les épices sont dosées et en fait, c'est vous qui gérez votre salaison, etc.
Ça s'appelle les paupiettes. C'est donc ici, dans la région, hein, du côté de Vitry-le-François, les paupiettes qui existent depuis le mois de septembre. C'est la solution d'aujourd'hui. Merci d'être venue nous la présenter. Merci à toutes d'avoir été avec nous ici à Quartier Libre à Reims. Merci à Catherine qui était notre coach. Merci. Nous, Benjamin, on se dit à
jeudi.
Lundi. Ah bah, à jeudi, si vous voulez.
À lundi, Raphaël Duchemin, merci beaucoup.